Voici une question qui est très importante pour chacun de nous. Est-il possible de gérer nos biens en vue d'un trésor qui nous attend dans le royaume des cieux? La parole de Dieu va nous donner une réponse très pratique aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a vraiment de très bonnes questions aujourd'hui. Celles qui concernent l'argent, les biens matériels m'intéressent particulièrement puisque Dieu est encore en train de m'enseigner à ce sujet. Voici nos questions. La parole de Dieu enseigne-t-elle que le monde aime les siens, mais qu'il hait ceux qui appartiennent à Dieu? Comment Dieu justifie-t-il les coupables? Comment est-ce qu'un croyant fidèle gère son argent? Est-ce que nos biens nous appartiennent réellement? Est-ce que la gestion de notre argent est une affaire spirituelle? Pouvons-nous à la fois servir Dieu et Mammon, le Dieu des richesses? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible. Il est prêt à nous donner un enseignement qui va nous être très utile dans notre vie de chaque jour. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien saisir le sens de ce bon enseignement. Prions. Ô Seigneur, tu vas nous enseigner aujourd'hui sur la manière de gérer nos biens. Apprends-nous à les gérer tel que tu veux qu'on le fasse. On sait que tu veux nous bénir et on sait que souvent on passe à côté. Instruis-nous, montre-nous comment tu veux qu'on gère nos biens. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous examinons la parabole de l'intendant infidèle dans le 16e chapitre de l'Évangile selon Luc. Un intendant gère les biens d'une personne riche, et le Seigneur Jésus prend l'exemple d'un intendant malhonnête pour illustrer une vérité spirituelle. Cette parabole est souvent mal comprise, car il semble que le Seigneur approuve une personne malhonnête. En effet, l'économe de cette parabole est un voleur. Certaines personnes pensent que si le Seigneur mentionne une personne dans une parabole, celle-ci est un héros ou un personnage noble. Mais les personnages principaux des paraboles ne sont pas toujours des exemples à suivre. Et nous avons ici un individu qui a détourné les fonds de son employeur. L'économe de la parabole fonctionne selon les principes du monde. La parole de Dieu nous affirme que le monde aime les siens, mais haït ceux qui appartiennent à Dieu. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean, chapitre 15, versets 18 et 19. Un enfant de Dieu n'appartient pas à ce monde et ne vit pas selon les principes de celui-ci. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit « Et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Galates, chapitre 1, versets 3 et 4. Et dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, il ajoute « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Finalement, l'apôtre Jean nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean chapitre 2, verset 15. Dans le monde, la règle dit « chacun pour soi. » Et l'économe suivait ce principe. Le premier commandement du monde est « chacun pour soi ». Tous cherchent d'abord à survivre, à défendre leurs propres intérêts. Ceux qui brassent des affaires louches, qui opèrent de façon questionnable et qui font des fraudes astucieuses, ces gens sont souvent bien vus et même admirés dans le monde. Cependant, chacun a ses secrets. Souvent, la loi protège ces gens et il est difficile de les faire condamner. La loi dit qu'un homme est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce principe légal fut introduit afin de pallier à des abus dans le système de justice. Mais Dieu a une approche différente à la question. Dieu dit que nous sommes tous coupables et que nous devons nous faire justifier. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Un homme ne sera jamais innocent aux yeux de Dieu, mais ce même homme peut se faire justifier devant Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ comme son Sauveur, elle est justifiée par la foi. C'est la seule façon qu'a une personne d'être justifiée. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Donc, nous avons l'histoire d'un homme riche et son économe infidèle. L'économe gérait les biens de son maître. Abraham en avait un. C'est le serviteur qu'Abraham a envoyé afin qu'il ramène une épouse pour son fils Isaac. Le roi David embauchait aussi des économes. Ils sont mentionnés dans le livre 1 Chronique, chapitre 28, verset 1er. L'économe de David était responsable de tous les biens de David, ainsi que des enfants du roi. L'apôtre Paul a dit, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Chaque croyant a une part de responsabilité vis-à-vis Dieu. Dans cette parabole, l'économe est l'équivalent du président d'une corporation. Il était responsable de la gestion des biens de son maître, mais il s'est rendu coupable d'actions malhonnêtes et de détournement de fonds. Il s'est conduit comme un président de banque qui empoche l'argent de l'institution. Il a dissipé les biens de son maître. Verset 2. Il l'appela. Il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Maintenant, le jour où cet homme doit rendre des comptes est arrivé. Puisqu'il avait en main le sceau de son maître pour signer les documents officiels, plutôt que de s'en servir pour signer le bilan financier de son maître, il a plutôt opté pour défendre ses propres intérêts selon les principes du monde. Il a combattu pour sa survie. Verset 3. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne le puis. Mendier ? J'en ai honte. » Cet homme ne se pensait pas qualifié pour un travail manuel ardu, et il aurait eu trop honte de mendier. Cela nous fait sourire un peu. Il avait honte de mendier, mais il n'avait pas honte de voler. Malheureusement, bien des gens sont comme lui aujourd'hui. Verset 4. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Cet homme ne se repent pas de son péché. Il n'a ni regret ni remords pour ses mauvaises actions. Cet homme était un fraudeur. Et il serait probablement admiré pour sa ruse dans notre monde d'aujourd'hui. Il ne semble pas avoir été qualifié pour un autre travail. Il devait être assez âgé. Il était trop orgueilleux pour mendier, mais il n'avait pas honte de voler. Versets 5 et 6. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il a convoqué tous ceux qui devaient de l'argent à son maître et il a réduit le montant dû. Il a accordé des rabais à tous les débiteurs de son maître. Verset 7. Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » L'économe était plus malhonnête à la fin de sa carrière qu'il ne l'était au début. Il ne fut pas puni pour avoir agi ainsi. Pour justifier la violence dans les émissions de télévision, les diffuseurs ont déjà prétendu qu'elles enseignent que le crime ne paie pas. Je doute que le message passe toujours, mais il est censé être là. En tout cas, le crime fut payant pour l'économe malhonnête dans notre histoire. Lorsque Jésus raconta la parabole du bon samaritain, il ne dit pas si les brigands furent attrapés. Jésus-Christ n'essayait pas de dire que le crime ne paie pas. Ce n'était pas son but. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Voilà une réaction étonnante de la part du maître de l'économe. Il loue et admire son employé malhonnête pour avoir agi avec prudence. Il semble que le maître se soit enrichi selon les mêmes principes que l'économe infidèle. En sous-entendu, il lui dit qu'il a agi prudemment. De quelle façon le fait-il? En suivant les principes du monde. C'est ce monde qui haït Christ. Ce monde fait ses propres règles et ses propres lois. La règle est chacun pour soi. C'est à qui mangera l'autre. Donc ce maître vivant dans le monde a loué son serviteur vivant dans le monde pour sa sagesse du monde, embrassant les affaires du monde. Vous avez compris? Autrement dit, tout s'est fait selon les principes du monde par des gens du monde. Aujourd'hui, un homme est considéré pour ce qu'il possède et non pour la façon dont il a obtenu sa fortune. On admire un millionnaire sans se demander ce qu'il a fait pour le devenir. Le Seigneur Jésus a dit, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière lorsqu'il est question de gérer leurs biens. Il va de soi qu'ils les gèrent selon les principes du monde. Le Seigneur poursuit, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. L'énoncé le plus étonnant du Seigneur concerne la relation des croyants avec les richesses injustes. L'argent n'est pas mal en soi. En fait, l'argent est amoral, c'est-à-dire ni bien ni mal. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Un croyant fidèle utilise son argent selon des principes spirituels. Est-ce que nous nous amassons des trésors dans les cieux en utilisant notre argent adéquatement? Si nous sommes prudents avec notre argent, lorsque nous arriverons au terme de notre vie, un trésor de récompense nous attendra dans le royaume des cieux. Versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nous sommes gestionnaires des biens de Dieu. Rien, rien ne nous appartient vraiment. Nous devrons rendre des comptes à Dieu au sujet de la gestion de nos finances personnelles. Il n'est pas seulement question de la portion de nos biens que nous donnons à l'œuvre de Dieu, mais aussi à qui nous la donnons. C'est ce que le Seigneur affirme en disant que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de lumière. combien de chrétiens utilisent prudemment les richesses injustes, c'est-à-dire les richesses du monde, s'en servent-ils pour accumuler des richesses spirituelles? Dieu vous demandera des comptes sur l'utilisation que vous aurez faite des biens matériels qu'il vous a confiés. Vous devez être prudent et éviter de donner à toutes les organisations ou toutes les personnes qui vous approchent. Dans certaines organisations, une portion importante de l'argent reçu est dépensée en salaire et en administration. Une faible portion seulement se rend aux gens que l'on est censé secourir ou aider. La façon dont les chrétiens donnent leur argent n'est pas toujours bonne. Si vous donnez à une œuvre de bienfaisance, assurez-vous qu'elle sert aussi à proclamer l'Évangile. Elle ne doit pas servir à enrichir un individu ou quelques personnes dans l'organisation. Il y aurait moins d'abus si les chrétiens faisaient preuve de plus en plus de prudence avec leur argent. S'ils étaient aussi prudents que les enfants de ce siècle, nous dit le Maître. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, utilisez-vous votre argent en vous assurant qu'elle servira à apporter la parole de Dieu là où il y a un véritable besoin, là où elle n'est pas proclamée. Le Seigneur donne un message élémentaire avec cette parabole de l'intendant infidèle. Pensez-vous que Dieu va vous confier des richesses célestes si vous ne gérez pas bien les richesses terrestres qu'il vous a confiées? La gestion de votre argent est une affaire spirituelle. Vous êtes responsable non seulement de ce que vous donnez, mais aussi à qui vous le donnez. Verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Chers amis, que faites-vous de votre argent? La question est pertinente. Sert-elle strictement aux choses de ce monde? Alors vous servez un des deux maîtres. Vous servez Mammon. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui ont entendu cette parabole furent accusés par leur conscience. Mais plutôt que de se repentir, ils se moquèrent de Jésus. Versets 14 à 17. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela. Ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Dieu connaissait le cœur des pharisiens. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît mon cœur. Nous pouvons faire en sorte de bien paraître devant tous, mais nous ne trompons pas Dieu. Il voit dans notre jeu, car il voit dans notre cœur. Nous ne pouvons pas nous conformer aux standards de Dieu. Verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Si nous avions ce seul verset pour nous enseigner au sujet du divorce, alors un chrétien ne pourrait jamais divorcer, ni se remarier. Cependant, il faut comparer ce verset à l'enseignement de Matthieu 19, ainsi que de la lettre de Paul, la première lettre adressée aux Corinthiens, chapitre 7, sur le sujet. Pour déterminer ce que la Bible enseigne sur un sujet, il faut comparer tous les textes qui en traitent. Jésus s'adressait à des hommes sous la loi, et qui prenaient celle-ci à la légère. Maintenant, nous arrivons à une autre parabole que seul Luc nous raconte. C'est une parabole merveilleuse, comme plusieurs des paraboles racontées par Luc. Nous l'appelons la parabole de l'homme riche et de Lazare. J'aimerais affirmer une chose que je crois importante. Je ne pense pas que Jésus n'ait jamais inventé une parabole. je crois qu'elles sont toutes inspirées de faits vécus et de véritables situations. Jésus s'est toujours inspiré du vécu des gens. Les paraboles peignaient des scènes avec lesquelles la population était très familière. Lorsqu'il dit qu'un semeur partit semer, tous avaient déjà vu un semeur dans un champ. Donc, les gens comprenaient de quoi parlait Jésus. Cette parabole est exceptionnelle et comprenons bien qu'il ne l'invente pas. Cette fois-ci, il nous donne un nom, le nom du pauvre. Ce pauvre s'appelait Lazare. Jésus n'aurait pas donné le nom d'une personne qui n'existait pas. Nous avons donc une belle parabole. Nous n'aurons pas le temps de l'étudier entièrement aujourd'hui, mais permettez que j'en commence la lecture. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cette parabole nous présente un homme riche qui a vécu sans Dieu. De plus, il est mort sans connaître Dieu. L'action de la parabole se déplace dans l'éternité, un endroit dont vous et moi ne connaissons rien. Dans cette parabole, Jésus nous amène de ce monde à l'autre monde, sans interrompre le déroulement de l'action. Il n'y a pas de magie ici. Il y a un rideau qui nous sépare de l'autre monde, et nous en savons très peu de choses. Ici, le Seigneur traverse le rideau sans aucun effort. Il parle de l'autre monde de la façon la plus naturelle. Lorsqu'un homme se laisse aller à son imagination, il cherche à fabriquer des inventions de toutes sortes. Dans ses rêves les plus fous, il n'y a pas de bornes aux spéculations qu'il peut faire. On fait geler des corps, espérant les ranimer lorsque le progrès médical permettra de guérir certaines maladies. On désire se rendre immortel au moyen du clonage. Déjà, les scientifiques rêvent sérieusement au jour où notre corps sera immortel grâce à la science et à la médecine. Lorsque l'homme utilise son imagination, il se rend loin et souvent il s'attire des ennuis. Dans cette parabole, nous sommes devant le rideau qui nous sépare de l'au-delà, mais nous ne pouvons pas le traverser. Mais que dit la parole de Dieu ? Il n'y a que trois hommes qui ont pu parler avec autorité au sujet de l'au-delà. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Jean qui a reçu une révélation dans l'Apocalypse, et l'apôtre Paul qui a dit et qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Voilà ce que nous pouvons entendre, recevoir comme enseignement au sujet de l'au-delà. Dans cette parabole, nous avons ici un homme riche qui aimait festoyer à la vue de tous. Mais nous verrons la suite de cette parabole à la prochaine émission. J'aimerais revenir sur le fait que Jésus ouvre le rideau concernant l'au-delà. Peut-être que toi-même, tu as toutes sortes de spéculations. Tu as fait des lectures, tu t'es renseigné au sujet de cette vie après la mort. Pourquoi ne pas porter une attention toute particulière à ce que Jésus, le Maître, enseigne concernant cette vie après la mort? Qu'y a-t-il après la mort? Et souvent vous vous dites, personne n'est venu nous le dire, Christ est venu. Mais son message provoque deux réactions, une d'espérance ou une de rejet. Comme le dit le texte, Jean 3, versets 20 et 21. « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Chers amis, préparons-nous en lisant Luc 16, verset 19 à 17, verset 37.
Merci beaucoup, Régent. Tu as dit que si nous sommes prudents avec notre argent, lorsque nous arriverons au terme de notre vie, un trésor de récompense nous attendra dans le royaume des cieux. Wow! Avant de connaître le Seigneur, je pourrais presque dire que je roulais sur l'or. J'étais dans le domaine artistique et je recevais régulièrement des sommes d'argent pour des émissions de télévision, des commerciaux, des ventes de disques, des droits d'auteur et bien sûr pour des spectacles, et j'en passe. Et croyez-le ou non, je dépensais cet argent plus vite que je ne le recevais. Je mangeais dans les meilleurs restaurants, je voyageais, je faisais des cadeaux à mes parents, à mes amis, je magasinais, je m'habillais. Il n'y avait rien de trop beau. Quand ma vie a changé et que j'ai décidé de quitter le domaine artistique, j'avais une dette de 8 000 $. Ça démontre quelle sorte d'économe j'étais, n'est-ce pas? Mais avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à rembourser ma dette en reprenant un fonds de pension et en trouvant éventuellement un emploi. Et j'étais peut-être généreuse, mais j'administrais encore mal. Et Dieu s'est mis à m'enseigner. Et ce n'est pas sans souffrir que j'ai dû apprendre à ne pas dépenser dès que l'occasion s'y prêtait, même si c'était pour aider quelqu'un dans le besoin. Et maintenant, je prie. Je demande le conseil de Dieu avant de m'engager dans une œuvre quelconque. J'ai trouvé ça bien intéressant quand Régent a dit qu'on n'était pas seulement responsable de ce qu'on donnait, mais qu'on était responsable du choix de ceux à qui on donnait. Il a dit qu'il était important de donner là où ça rapportera le plus en matière de gagner des âmes pour Christ. À mon avis, on ne pourrait pas faire un meilleur investissement que celui-là. C'est vrai qu'on peut donner à toutes sortes d'organisations humanitaires, et je suis sûre que c'est très bien de le faire. Mais pensez-y, donner dans le but de supporter ceux qui annoncent aux gens comment faire pour aller au ciel. Y a-t-il une meilleure cause que celle-là? Un meilleur investissement? Ça, c'est un investissement pour le royaume de Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, que fais-tu de ton argent? T'en sers-tu uniquement pour toi, pour les biens qui un jour vont périr? On devrait s'encourager mutuellement à donner là où Dieu peut faire le plus de bien, le plus grand bien. Demandons à Dieu qu'il nous indique toujours la manière d'administrer l'argent qu'il met entre nos mains. J'aime bien les versets 19 à 21 du 6e chapitre de l'Évangile de Jean. Permettez-moi de vous le lire. Il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est ton trésor? Où est ton cœur?
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau, et maintenant je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.